Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
En fait, peut-être que je pars pas. Enfin, donc on est, il y a toute une période comme ça, un peu en suspens, qui est un peu bizarre, parce qu'on se dit, ouais, la vie va peut-être basculer, on va peut-être tout changer ou pas, en fait.
Bonjour à tous, je suis Laura, fondatrice des Clés du Gîte, et cette année encore, je vous emmène avec moi à la rencontre d'hébergeurs partout en France. Avec mon micro sous le bras, je m'en vais sillonner les routes de notre beau pays pour recueillir des témoignages sincères et toujours passionnants. Au rythme d'un témoignage par mois, vous découvrirez des parcours tous différents et des quotidiens bien rythmés. La nouveauté de cette saison 4, c'est que je suis face à mes invités et que j'ai l'immense chance de découvrir leur lieu de vie de mes propres yeux. J'espère que vous apprécierez ces épisodes plus spontanés, authentiques et souvent même touchants, avec peut-être même quelques fous rires en chemin. Les Clés du Gîte, c'est avant tout un podcast. Mais grâce à votre fidélité, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels du tourisme qui échangent et s'entraident sur Instagram. Et pour ceux qui rêvent de se lancer dans l'aventure de l'hébergement, j'ai une surprise pour vous, des séances de coaching sur mesure, pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets les plus fous. Du coaching express d'une heure au suivi personnalisé sur plusieurs mois, je suis là pour vous aider à concrétiser vos rêves. Alors n'attendez plus, réservez votre appel découverte gratuit et voyons ensemble comment je peux vous aider à donner vie à votre futur gîte ou maison d'hôte. Trêve de bavardage, mes chers auditeurs, l'épisode du jour vous attend. Alors tenez-vous prêts à être émerveillés, inspirés et surtout préparez-vous à partager cette aventure avec vos proches en laissant un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonne écoute à tous. Bonjour Delphine, bonjour Guillaume, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans Maison Sumiane. Je suis ravie de vous retrouver avec ce beau soleil, ces oiseaux qui chantent en plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu où on se trouve et ce qui nous entoure ?
Bah parfaitement, déjà, on est ravis de t'accueillir, c'est un plaisir. Alors, pour tout te dire, on est à Brignoles, qui est une petite ville du Haut-Var. Et c'est un terrain de jeu juste absolument génial. On est entre le Var vert et le Var bleu. Donc, pas si loin que ça du Verdon, à titre d'exemple. Et très proche de toutes les pépites du littoral, Bormes-les-Mimosas, les Calanques de Marseille, Porquerolles, et voilà.
Très beau tableau. Et alors, plus concrètement, voilà. Tout de suite.
Là, tout de suite, maintenant, plus concrètement. Nous sommes dans le salon donc, de Maison Sumiane, le salon commun, où les hôtes peuvent venir se poser, prendre un livre de la bibliothèque, l'hiver, enfin, un gros feu, un peu cosy. Il y a de la musique à dispo, ils peuvent écouter leur musique. Enfin voilà, on a voulu un petit coin un peu cocooning pour les soirées d'hiver.
Et même soirées plus chaudes, hein, je pense que c'est hyper agréable. Vous avez décoré ça avec beaucoup de goût, mais on pourra en reparler après. Avant toute chose, est-ce que chacun peut se décrire, me dire un petit peu ce qu'il fait dans la vie ce que vous faites?
Donc moi je suis Delphine, je suis juriste. Je travaille chez des notaires à Aix-en-Provence actuellement, après avoir travaillé pendant 18 ans à Paris dans le même domaine. Voilà, on a monté. Enfin, j'ai arrêté de travailler pendant un an et demi au moment où on a créé la maison, fait les travaux et l'année du lancement. Et puis ensuite, j'ai repris une activité de mon côté de salarié.
Écoute, moi, de mon côté, je suis vraiment dédié à ce projet.
D'accord.
Et avant Maison Sumiane, j'ai fait plein de choses.
Dans quel domaine ?
J'ai beaucoup travaillé dans les médias, sur des postes de direction du développement commercial, dans des médias qui ont toujours été des médias coup de cœur. J'ai travaillé chez Vice et d'ailleurs, tu verras
oui, j'ai dans vu plusieurs toutes les chambres,
dans tous les recoins de la maison, le fameux magazine. J'ai aussi... si tu veux essayer de me lancer dans des projets d'entrepreneuriat, que ce soit en propre ou que ce soit en association. Et dernièrement, j'étais chez Thomas Cook avant que cette gigantesque société dans le tourisme crache en période de Covid. Alors, voilà.
Ah, c'est le Covid qui a fait que ça a crashé ?
Non, ouais. Pas uniquement. Si tu veux, c'était un vieux modèle qui devait se réinventer. Et ces gros paquebots, c'est lourd pour que ça prenne la bonne direction. donc, en fait, si tu veux, ce n'était pas écrit, mais il y avait quand même une certaine logique entre mon parcours et ce que je fais aujourd'hui.
D'accord. Et vous allez nous dire, mais pourquoi quitter Paris ? Comment vous vous êtes retrouvés ici ? Qu'est-ce qui a été déclencheur dans votre envie de bouger ?
Alors, écoute, c'était le bon moment. Quand de toute façon, ta boîte ferme, il faut que tu trouves la bonne direction. Et en toute honnêteté, c'était une activité et un projet de vie qui nous donnait vachement envie.
Ça vous trottait quand même dans la tête depuis un moment.
Ouais, puis on avait vécu l'expérience maison d'hôte. On avait l'habitude d'aller dans une maison géniale à Mâcon, qui s'appelle le domaine Ricaire, qui était tenu par des passionnés. Et c'était une étape assez régulière de notre trajet de vacances entre Paris et Nice. Et je pense que ça a été un peu le point de départ de cette vie, en fait, elle nous plaît, quoi. Elle nous plairait.
Et ça impliquait quoi ? Est-ce que du coup, d'elle, tu devais changer de boulot ? Il fallait vendre une maison, en acheter une nouvelle ? Vous aviez de la famille ici ?
Ouais, non, ça a impliqué de tout changer dans notre vie. Clairement, ça a été un gros saut. Moi, je l'ai vécu comme un gros saut dans le vide. Je pense que j'étais moins prête en plus à ce moment-là que Guillaume, au moment où les choses se sont présentées, parce que j'étais bien dans mon boulot, j'étais encore bien à Paris, j'aurais pu rester encore comme ça un petit moment. Enfin, ma vie me plaisait. Après, ce que Guillaume n'a pas dit, c'est qu'on est du sud, nous, à la base. On est niçois. On a grandi à Nice, on a grandi avec cette lumière, ce soleil. Ça nous manquait, c'était indéniable. Donc, il y avait vraiment ce projet quand même depuis quelques temps, cette envie de retourner, de retrouver le sud. Mais c'était compliqué de trouver du travail dans le sud. Il y avait quand même cette réalité. Et au moment où effectivement Thomas Cook a crashé, etc., l'idée, c'était de se dire, mais en fait, il faut qu'on descende avec un projet. Faut qu'on crée notre activité. Il y a ça qui a émergé. On n'est pas tout de suite. L'idée n'était pas tout de suite finalement de s'installer dans le sud-est. Bizarrement, on a commencé à imaginer un projet dans les Landes parce qu'on a aussi des attaches. Moi, j'ai des attaches familiales là-bas. On y passe beaucoup de temps. On aime beaucoup l'océan, etc. Guillaume et les enfants font du surf. Enfin, c'est vraiment un coin qu'on adore. Et on a d'abord imaginé s'installer là-bas, vraiment, avec des projets plutôt... on voulait récupérer des conteneurs maritimes pour les rénover en lodge un peu luxe, s'installer trouver une pinède et s'installer. Bon, forcément...
Là, tu viens de donner un concept pour certains auditeurs qui vont...
On s'est heurté. Alors, c'est génial, le concept est génial, etc. Ouais. Mais par contre, il fallait du temps. Il fallait du temps parce que tu te heurtes à toute une réalité d'urbanisme. Tu vis des zones naturelles qui sont pas qui sont pas du tout aménagées. Donc à moins de racheter un camping et de tout revoir, tout refaire. Et donc il fallait des moyens colossaux. Du coup on a changé un peu notre fusil d'épaule. On a eu un super projet aussi avec des amis pareil dans les Landes. qui avait émergé, mais qui nécessitait énormément de fonds. Mais voilà, c'est assez amusant parce que Maison Sumia n'est pas arrivée comme ça,
ouais,
comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain. Il y a eu tout un cheminement qui s'est... on a vraiment cheminé, on a vraiment mûri l'idée.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était quand même une réflexion qui était raisonnée. Vous vouliez justement faire quelque chose de raisonnable et vous dire, OK, on bouge, mais ouais, c'est pour ça, dans tel contexte, avec telle sécurité. Quoi. Oui. Fallait que ce soit cadré.
Oui, mais c'est assez marrant parce qu'au départ, il y avait un peu ce côté de... justement pas hyper raisonnable, enfin le côté on rêvait un peu au départ.
D'accord.
T'es un peu tout feu tout flamme, t'as des idées plein la tête, ouais. Et là ouais on va faire ça, et en fait après t'as la réalité
qui
te rattrape, donc voilà. Et finalement bon, on a quand l'élan de tout ça c'est pas fait, on s'est dit OK, donc recentrons-nous, où est-ce qu'on a notre famille, où est-ce qu'on a des amis. Où est-ce qu'on a envie de
poser les valises
concrètement,
ouais.
Voilà. Ouais. Donc on a commencé à chercher dans une zone entre Marseille et Nice, quoi.
Et là, on parle de quand ? Quelle époque ?
On
quelle
était
période ?
En 2021.
Ok.
On était post-Covid, 2021. Et là, on commence vraiment à se centrer sur cette zone-là et à se dire... on va retrouver mais notre sud en fait, le sud où on a grandi, ce qu'on connaît, là où on a des attaches et là où aussi où l'activité pourra fonctionner toute l'année. Parce qu'il n'y a pas la même saisonnalité aussi dans le sud-ouest, dans les Landes, que dans le sud-est ici. Il y a cette réalité-là aussi, ouais, commerciale. Et du coup, on a cheminé avec, pareil, à un moment, avec des idées d'association avec un ami. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et de fil en aiguille, on est tombé sur l'annonce de
Maison Sumiane.
Qui ne s'appelait pas Maison Sumiane, mais on va te raconter après. Et Guillaume descend.
Alors attends, ça va trop vite.
Ah.
Combien concrètement il y a de visites avant Maison Sumiane ?
En fait, tu recherches beaucoup, ça c'est une certitude.
Ouais.
Et tu visites assez peu.
Parce que vous aviez quand même fait un petit cahier des charges, histoire de filtrer justement.
Ouais. Alors déjà de un, le fait d'avoir rêvé au départ et d'être ouvert au champ des possibles, ça fait que tu te heurtes effectivement, c'est ce que disait Delphine, à une réalité. Et donc tu comprends pourquoi les choses se font pas.
Ouais.
Et puis ensuite tu définis ton cahier des charges. Le cahier des charges, c'est déjà de un, il faut que ça nous plaise. On va y habiter, on va y donner énormément, ça va être notre vie, donc il faut que le lieu nous plaise. En deux, il faut que ça puisse être dans une zone qui est véritablement un attrait touristique, parce qu'il faut que ça fonctionne, pas que ça te plaise que à toi.
C'est du business, donc il faut quand même qu'il y ait... Ouais.
En trois, il faut qu'il y ait suffisamment d'amplitude, parce que l'idée c'est de pouvoir en vivre, et en tout cas de financer le bien, donc il faut qu'il y ait suffisamment d'amplitude commerciale. Mmh. Et en 4, j'ai envie de te dire les autorisations, parce qu'effectivement, tu peux avoir envie de te mettre dans une zone agricole, zone naturelle, tu peux avoir envie de tout un tas de projets, mais en même temps, il faut que ça puisse être réalisable, d'un point de vue administratif. Mmh. Et le point qui valide tout, c'est il faut que ce soit dans ton budget, quoi.
Tout à fait. Et ce budget, d'ailleurs, est-ce qu'il fallait que vous vendiez donc un bien à Paris pour pouvoir investir sur un nouveau ?
Non. En fait, si tu veux, nous, on n'avait pas de propriété.
D'accord.
Donc, on n'avait pas à revendre, on n'avait pas d'emprunt.
Donc, le budget, tu l'avais évalué comment ? T'avais vu un banquier pour avoir ta capacité d'emprunt ?
Exactement. Ouais. Enfin, oui, la partie qu'est-ce qu'on est capable de mettre dans ce projet en fonction du cash qu'on avait à dispo, etc. Ça, c'était identifié.
Ouais.
Ce qui n'était pas identifié, c'est dans les différents projets qu'on a eu avant, qui étaient des projets d'association, où là, pour le compte, on partait sur des choses qui jamais auraient été autorisées d'un point de vue bancaire.
D'accord.
Mais quand tu as fait ton dossier, tu t'aperçois assez rapidement de là où il faut que tu te situes d'un point de vue financier pour que ça passe. Donc,
d'accord,
c'était raisonné. Et c'était dans les clous, en tout cas, d'un point de vue acceptation de la banque.
Ok, donc ça nous amène à cette fameuse annonce de la Maison Sumiane. Est-ce qu'elle s'appelait déjà la Maison Sumiane ?
Non, je ne sais même pas si elle avait un nom, à vrai dire. Elle avait plein d'histoires.
Et sur quel site tu la repères ?
Je sais, tu penses que ces gens te font confiance? En fait, si tu veux, j'avais créé un espèce d'outil sur Excel où, quoi qu'il en soit, toutes les maisons arrivaient directement dans mon fichier en fonction de est-ce que c'est possible ou pas possible. Donc,
D'accord.
après, si tu veux, dans le réseau de recherche, il y en avait plein, il y avait tout
D'accord.
un tas de sites, mais ça faisait partie, si tu veux, des peu de maisons qui pouvaient coller
Au
à notre
maximum de
cahier
vos
des charges.
critères. Ok,
Exactement.
génial. Donc celle-là, on va la visiter. On descend
Celle-là,
et on...
on va la visiter. Moi, j'étais aussi, ça c'est arrivé comme ça, sur un projet de job dans une boîte hyper sexy à Marseille. Et franchement, ça nous donnait aussi très très envie.
Ouais,
Mais moi, mon cœur
d'accord.
balançait. Entre les deux, c'était compliqué. Et bah, c'est la vie qui a fait que ça a été Maison Sumiane et
D'accord.
pas l'autre projet. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis rentré dans cette maison, j'ai fait.
Il
C'est
s'est
assez
passé un
dingue.
truc.
Ouais, c'est assez
Ah
dingue. C'est
oui.
chargé d'histoire. Les décors sont
Ah oui.
magnifiques. Il y a plein de trucs qui sont des choses qui nous plaisent. Les matériaux sont nobles. Le parquet d'époque.
Cette visite, tu l'as fait tout seul?
Tout seul.
D'accord. Et du coup, comment il t'a, qu'est-ce qu'il t'a raconté au téléphone pour te débriefer sur la visite?
Ah bah Guillaume, il est toujours tout feu tout flamme, donc non, mais il était hyper emballé.
Ouais.
Hyper emballé. Alors moi, les photos étaient déjà très belles, effectivement, parce que tu avais les photos de cette cage
Ah
d'escalier
oui.
majestueuse avec ses
Les
décors, etc., les
peintures.
peintures, tout ça. Donc il est rentré hyper emballé. Donc c'est vrai que j'avoue que j'étais un peu bon, ok. En même temps, il a raison, j'avais complètement oublié ce point-là, mais il était en finale pour un job à Marseille hyper intéressant. J'étais plus rassurée par le job à Marseille, à vrai dire. Et finalement, il me dit, écoute, faut que tu ailles la voir. Je ne prendrai pas une décision comme ça à la hâte. Donc, je pense qu'il l'a vue fin février. Je suis descendue mi-mars à peu près voir la maison. Il y a 3 ans. Et je descends, je me fais un aller-retour Paris-Toulon. L'agent immobilier vient me chercher à Toulon. On arrive, il pleut des cornes. Donc je vois vraiment la maison pas sous son meilleur jour.
Et pour autant.
Pour autant, je l'ai trouvé magnifique. Et en même temps, je crois que je suis rentrée en pointant du doigt tout ce qui n'allait pas.
D'accord.
Donc
Plutôt
j'étais un
sage
peu.
aussi, c'est bien.
Donc je pense que j'étais aussi dans un entre-deux et que je Voilà, j'étais intérieurement emballée tout
Oui,
en...
avouer que ça t'avait
Ouais.
emballé, c'était peut-être prendre le risque de devoir se lancer et
Oui,
donc
et comme Guillaume va
c'était
très vite
chaud.
après derrière, je pense que
Ouais.
je ralentissais un peu le cheval, quoi. Mais oui, non, j'ai vu tout son potentiel. En tout cas, il y avait vraiment on pouvait se projeter déjà en se disant, oui, là, on peut réaliser ce qu'on a en tête, le lieu un petit peu voilà hybride avec toutes ces promesses, tout ce qu'on a un peu élaboré comme
Donc cette
ça.
maison d'hôte, de suite on se dit, ok, ça sera dans un concept, dans une formule maison d'hôte. Vous l'imaginez pas dans une autre optique.
Non, enfin on voulait quand même un lieu où on puisse faire un peu d'événements, un peu de Voilà, on se projetait avec aussi, pourquoi pas, du shooting, des retraites de
Oui,
yoga et tout ça. Ça, on l'avait en
multipotentiel, ouais.
tête. On l'avait en tête, mais oui, c'était chambre d'hôte. Chambre
D'accord.
d'hôte, ouais.
Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Et donc,
Vous
qu'est-ce qui se
réfléchissez. Il y a d'autres personnes
passe?
qui sont un peu sur le coup
Pas
ou
trop, pas trop, parce que c'est quand même une maison qui est immense.
Est-ce qu'elle est habitée
Elle
encore?
est, en fait, c'était une famille qui habitait là, avec ils avaient 5 enfants, ils ont habité là pendant 20 ans.
Ah ouais.
Et puis, changement de vie pour eux aussi, parce qu'ils sont partis retraités en Bretagne, donc rien à voir.
Vous descendez et ils montent.
Exactement. Et c'est une maison quand même qui nécessite d'avoir oui, d'avoir un peu les reins solides, parce qu'il faut faire des travaux, elle est très grande. On est à Brignoles, hein, donc on n'est pas non plus à Saint-Tropez ou en bord de mer, on n'est pas dans ce Var un peu qui attire. Les gens qui achètent des grosses, grosses, grosses maisons, voilà. Non, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le coup. On
D'accord.
sent que, voilà, qu'on a une marge de négo, qu'on va pouvoir un peu discuter.
Et justement sur le budget, donc
elle rentre dans le budget puisqu'elle est identifiée dans le tableau Excel, même avec les travaux que vous pouvez commencer à imaginer, à anticiper, parce qu'on ne pose pas juste les valises.
Ouais, parce que là, pour le coup, on est complètement novice sur les travaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'était pas, on n'avait pas acheté de biens ensemble, on n'avait jamais fait de travaux.
D'accord.
Donc, on n'y connaît rien. En fait, on arrive sur cette maison où on est conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on n'y connaît rien. Et on discute déjà avec une amie qui est architecte à Paris et qui se rend hyper dispo, qui nous dit « mais je viens, je fais la visite avec vous, on regarde et tout ». Donc, je la remercie encore, hein, Cassandra.
Dédicace.
Elle a une chambre à son nom, d'ailleurs, dans la maison.
Trop chouette.
J'ai mon cousin qui me donne un petit peu comme ça sous le manteau, qui habite dans le Var, et qui me donne le nom d'une entreprise. Donc, on fait une première visite avec cette entreprise. Et on sent que le type est un peu réticent, quoi.
Ça lui parle pas trop. Il est peut-être plus dans le récent, quoi.
Pourquoi, mais voilà, c'est un peu... bon, on fait cette première visite avec ce type-là, mais on sent qu'il va pas forcément donner suite.
Okay.
Et nous, on a besoin d'avoir un budget...
Est-ce qu'il vous permet quand même d'identifier les points d'attention là où il faudra intervenir?
Oui, en gros, on lui dit, voilà, on a une enveloppe de temps. Est-ce que vous pensez que ça rentre? Il nous dit oui, mais bon,
okay.
Il ne nous rassure pas non plus énormément. Et en fait, Guillaume, venant des médias, discute un petit peu, je ne sais plus, avec des collègues du réseau, etc. Et récupère les coordonnées de Clémence, qui est en train de monter la roucoulade, qui est en plein travaux, et qui est en train de monter la roucoulade. Et elle lui dit, écoute, j'ai une super entreprise... Ils sont tout corps d'état, ça envoie, ils sont carrés, sympas. Je te donne les coordonnées de Charles et voilà, tu verras.
L'appel à un ami, ça a toujours été un truc important pour nous. Quand toi, tu ne sais pas faire les choses, tu as forcément autour de toi des gens qui ont les compétences, qui ont les bonnes connexions. Et c'est comme ça que c'est arrivé, tu vois. Pour Cassandra, sur l'aménagement des espaces, etc., elle a été hyper utile. Et effectivement, la roucoulade qui nous met en connexion avec Charles. Alors, j'ai essayé de faire bien la chose. C'est-à-dire que j'ai fait venir Charles en même temps que le banquier, histoire de bien rassurer
J'aime
tout le monde.
J'aime beaucoup, je trouve ça génial.
Voilà. Et on l'a fait aussi pour la partie jardin. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trop d'idées. On savait qu'il était beau, qu'il était vert. Mais en même temps, ça manquait de plantes purement provençales. Mmh. C'est la sœur d'un de mes très bons amis qui est paysagiste et qui s'est occupée du sujet. Donc ça, on a toujours été à l'aise avec ce système de collaboration.
C'est génial et c'est un vrai bon conseil. Typiquement, tu vois, ce ne serait pas ma façon de faire. J'ose pas solliciter les autres, mais je trouve ça formidable que de le faire. J'encourage tous les auditeurs vraiment à se tourner autour d'eux et à parler des projets, à profiter du bouche à oreille, parce qu'il y a toujours un oncle, une cousine, un tel et tout. Et ça, c'est super de pouvoir profiter des compétences qu'il y a autour de nous, quoi.
Et c'est des gens qui te connaissent.
Mais oui,
et
en plus.
Qui veut dire, s'ils te connaissent, ils savent comment tu fonctionnes. Et il pousse les bonnes personnes.
Tout à fait.
Pour le jardin, effectivement, on a eu la sœur de ce copain qui est passé, qui nous a donné les coordonnées d'une amie qui était en Argentine et qui nous a fait les plans du jardin depuis...
Tu lui envoies des photos et puis elle te fait tout son petit dessin. Mais
c'était
excellent.
C'était hyper marrant. Elle a été super bénédicte. Enfin voilà, c'était... C'est pareil, c'était une super collaboration et oui, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont été mis sur notre chemin par le réseau, par les copains. Ouais. Je pense à Elsa aussi de l'agence 5 septembre qui a fait un peu toute la DA, le site internet, le logo de Maison Sumiane, etc., qui nous a été pareil. C'est un contact qui nous a été donné par une amie. Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça dans l'histoire de Maison Sumiane, des connexions par du réseau, des gens, des amis, enfin beaucoup de bienveillance autour de nous et des choses qui ont matché dans l'aventure Maison Sumiane.
C'est génial. Et donc, ce rendez-vous, banquier à droite, Charles à gauche.
Alors ouais, on va revenir un tout petit peu en amont.
D'accord.
Pour la partie financement, parce que ça aussi, c'est un conseil. c'est que il faut venir hyper armé et hyper préparé pour pouvoir se donner toutes les chances, parce que c'est pas simple hein, de faire financer ce type de bien.
Il faut vraiment se vendre. Hein.
Ouais, et puis c'est une activité, si tu veux, qui fait peur. Et nous, effectivement, c'était post-Covid. Donc les banques déjà écrèment en se disant, bah, tiens, mais il y a tout un tas de gens qui rêvent, mais derrière, est-ce que l'envie est vraiment là? Est-ce que ça va le faire? Donc oui, le dossier de financement, moi, je l'ai travaillé avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Après, c'est quelque chose sur lequel j'étais assez à l'aise. Majoritairement, on a eu quand même pas mal de freins parce qu'il y a tout un tas de banquiers qui nous disaient non, que ce soit des banques familiales, que ce soit aussi notre réseau avec des courtiers, des mecs experts, etc. Mais ça ne le faisait pas. Et au final, la seule banque qui a suivi, c'est une banque locale. Alors là aussi, je remercie, petite dédicace au CIC de Brignoles, qui pour le compte connaissaient le marché parce qu'ils sont brignolés. Ils ont accepté de venir sur place. On a pu passer du temps ensemble. J'ai pu leur présenter effectivement le projet de manière assez détaillée. Et le fait effectivement d'avoir l'entrepreneur, ça apporte du sérieux. Et voilà, le dossier est passé avec eux et ils ont fait un tour de force énorme dans le sens où on a eu un premier refus des engagements. Et ils ont réussi 2 semaines après à faire en sorte que le dossier passe. Et ça, c'est juste très, très rare.
Est-ce que vous êtes à l'aise et est-ce que c'est OK de nous donner un peu des chiffres ou vous
préférez... Oui, bien entendu.
Pour les travaux, l'enveloppe, Charles, il vous dit combien, justement?
Eh bien, Charles, il nous dit que ça va tourner autour de 200 000.
D'accord.
Moi, j'étais assez ferme parce qu'il fallait que ça reste autour de 200 000.
OK.
Ça a dépassé un peu, mais franchement, ils ont fait le job. Et, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas voir au départ.
Ah, c'est toujours, oui.
Notamment des problèmes de réseau d'eau, etc., d'autorisation qui font que, quoi qu'il en soit... on a dû dépasser un peu cette enveloppe. Mmh.
Donc, sur l'achat, on est
sur l'achat, on est à 835.
Ouais, d'accord.
Et ensuite, il y a la partie équipement qui est pas moindre.
Oui, on en parlait encore ce matin sur la literie, mais ouais.
Qui était sans les frais de notaire.
Oui, aussi. Il y a la juriste qui nous.
Exactement. Pour cette partie-là, on devait être aux alentours de 70 000 euros, sachant que ça c'était assez chouette et c'était en corrélation avec notre positionnement. On a fait financer un certain nombre de notre équipement par le fonds de tourisme durable qui est rattaché à l'ADEME. Et voilà, enfin, on se doute pas.
Ça,
mais,
comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as fait des recherches sur Google et autres? Ou
savais,
encore une fois, quelqu'un t'a conseillé, tu as vu la CCI?
Non, ça,
ou...
je le savais au départ. Okay. Ça fait partie de... J'ai pas envie de dire cette vision entrepreneuriale, mais je savais que le sujet subvention était quelque chose d'important, que ce soit auprès de la commune, que ce soit auprès des offres d'État classiques, MaPrimeRénov, etc. Et je savais aussi qu'il y avait un certain nombre d'organismes extérieurs qui pouvaient aider à financer. Mais voilà, pour tout te dire, ils ont financé des oliviers pour ombrager la terrasse, des machines à café à grains, des machines à linge qui sont peu énergivores. Mais il y a tout un tas de choses qui sont financées dont on ne se doute pas.
Mais oui, c'est ça, et qui sont essentiels à l'activité aussi.
Complètement.
Donc, effectivement, encore un super conseil, renseignez-vous, regardez quelles subventions vous pouvez avoir et comme aide. Moi, je conseille toujours de se rapprocher de la CCI, parce que normalement, c'est l'interlocuteur qui va permettre d'avoir ce regard-là. L'accord est donné, on fait péter le champagne, qu'est-ce qui se passe? On est en quelle période?
Alors, quand la promesse est signée, c'est le dossier de financement. Donc, au début, tu penses que tu fais péter le champagne, donc tu es déjà dans le rêve. Et puis après, effectivement, ça coince. Mais ça a été une aventure assez, assez folle. C'est-à-dire que quand il a fallu repousser le projet, je me rappelle qu'il fallait, parce qu'on a mis un peu plus de budget pour pouvoir financer la maison.
C'est-à-dire que vous avez grossi votre apport,
ouais,
c'est ça que tu...
Ouais, okay. Ouais. Et donc du coup, l'apport, je ne suis pas allé le chercher auprès d'une entreprise, c'était une donation familiale.
D'accord.
Mais on était le dernier jour pour pouvoir valider cette donation. Et en même temps, il fallait que je valide le fait que l'argent qui m'avait été donné était bien sur le compte. Pour tout te dire, cette journée, j'étais devant le centre des impôts qui était fermé, donc je ne pouvais pas faire le truc.
T'as perdu 3 kilos en un jour.
Je trouve une fille qui fume une cigarette devant le centre. Et je lui dis, mais voilà mon projet, voilà où j'en suis. Et elle fait réouvrir le truc. Elle me met un tampon en me disant, bah, voilà, c'est acté. Et ensuite, je file à la banque. Et pareil, la banque, rideau. Tu vois le rideau en fer métallique des boutiques à moitié fermé. Et là-dessus, je vois qu'il y a quelqu'un parce que je vois des pieds. Je sonne, je tape et je dis, mais il faut absolument que les fonds soient... On a réussi. Mais quand tu racontes ça, tu te dis, mais attends, c'est juste dingue.
Mais bravo, mais quel...
c'est juste l'énergie. Le truc devait se faire et il fallait que ça se fasse. Donc du coup, le combat, tu le prends, quoi.
Déterminé,
tu gravis les montagnes.
Il n'y avait pas de plan B.
Pas de plan B.
Excellent.
Oui, et puis moi, c'est assez marrant parce que j'avais déjà parlé du projet à mon boss en lui disant, voilà, on est en train de monter ça, on a signé la promesse, etc. Et en fait, à un moment, on n'avait pas le prêt, quoi. J'étais, oui, mais en fait, peut-être que je pars pas. Enfin, donc il y a toute une période comme ça, un peu en suspens, qui est un peu bizarre parce qu'on se dit, ouais, la vie va peut-être basculer, on va peut-être tout changer ou pas, en fait.
Oui. Parce que vous aviez, j'imagine, mis une clause suspensive sur l'obtention de l'emprunt éventuellement l'offre d'achat saute cas où. Mais effectivement, oui, c'est très
flou. On est dans un point d'interrogation. Et c'est assez marrant parce que même on s'est formé avec Maison Séraphine, avec Claire et Pierre et Lisa à la Maison Séraphine, au moment où, justement, dans cet entre-deux, on avait signé la promesse. On n'était pas encore, on savait pas encore vraiment si on avait notre emprunt. Et ça donnait, et c'est vrai que ça a impulsé beaucoup d'envie, en fait, cette formation.
Ça confirmait
l'envie d'y aller. Ouais. Ça a confirmé, c'était hyper, hyper enrichissant. Il y avait beaucoup d'énergie. Déjà, c'est chouette parce que tu partages, tu passes 2 jours avec des porteurs de projets comme toi. On n'en est pas au même stade. C'est hyper enrichissant d'écouter déjà le parcours des autres, d'écouter, de voir la vision.
Oui,
et puis concept. d'être conseillé par Claire et Pierre qui ont une énergie débordante et voilà, qui sont super, super carrés, enfin, qui ont plein d'idées, etc. Et Elisa qui est hyper pro. Voilà, où vraiment, c'est un peu ce dont on parlait avec Guillaume hier, mais il y a vraiment une dimension professionnelle, en fait, de la communication.
Comment aborder le truc.
La communication sur les réseaux, les médias, enfin voilà, tout ce travail-là, on prend conscience que c'est vraiment un travail à part entière et que ça va nécessiter beaucoup de travail aussi pour nous. Mmh. Donc voilà.
Donc ça fait pas peur, ça confirme cette envie. On scrute le téléphone pour attendre le coup de fil de la banque pour nous dire ok, c'est bon. Il arrive ce jour, ce coup de fil.
Oui, il arrive. Et moi, je savais à quelle date il devait arriver. Alors j'ai pris mes baskets et je suis allé courir. Limite dans un endroit méga dangereux de Paris en me disant ouais je sais pas, il va rien m'arriver, ça va être une bonne journée, et ouais non, ça c'est fait, et là pour le compte, là c'est plaisir,
là tu fais péter le champagne.
Ouais, là on fait péter le champagne.
Ça induit quel timing ensuite? Donc on avait fait déjà l'offre, on a l'accord. Est-ce que ça se précipite vraiment?
Ouais, ça s'accélère, ça se précipite. Après il y a un peu de formation. Alors la formation dont t'as parlé, Delphine, c'était franchement celle qui était sympa, sexy, tout ce que tu veux, c'était un super moment, et puis en plus on l'a vécu à deux. Et moi, j'en ai fait 2 autres. Il y a la formation qui est obligatoire pour pouvoir avoir ton permis d'exploitation.
Oui.
Pour pouvoir avoir ta certification hygiène.
Oui. Ça, c'est des choses. Donc, tu as fait HACCP, le permis d'exploitation, licence
3. Et la licence, parce qu'on savait que table d'hôte, bah, forcément, on allait offrir une expérience globale. Donc, c'est la nuit, bien entendu. C'est le conseil en activité. Puis, c'est la partie table aussi.
Et ça va, ça se fait bien, ces petites formations?
Ouais, c'est très rapide.
Ouais, ouais,
c'est très
rapide. Tu l'as fait en présentiel, toi?
Je l'ai fait en présentiel, j'étais à Paris.
Ok.
Et j'en ai fait une autre à distance, qui était une formation autour du montage de projets dans l'écotourisme.
D'accord. Voilà. Donc, en fait, vous étiez aussi hyper ouvert à vous former et à aborder le truc de la façon la plus pro et la plus concernée possible.
Ah bah, c'était... Ouais, on était déjà investis dans le projet. Moi, j'avais une petite enveloppe financière CSP plus via Thomas Cook qui me permettait, du coup, de faire financer toutes ces formations. Donc, il y avait une logique à tout ça.
Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ça y est, on a les clés.
Eh ben, on a les clés.
Et là, Charles, il attaque direct ou pas?
Il attaque 2 mois après, mais en fait, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet d'habiter la maison.
Parce qu'elle est habitable. Vous pouvez poser les valises en l'état.
Clairement. Okay. Après, l'aménagement, il est complètement différent aujourd'hui de ce qu'il était. Mais le fait de vivre le lieu, ça te permet de te dire ce dont on avait discuté, au final, on ne va pas le faire comme ça. Moi, j'avais des idées un peu particulières et Delphine m'a clairement refroidi sur c'est cette maison, c'est notre maison, il faut qu'on en profite, on ne va pas se mettre dans un tout petit endroit.
Oui, tu voulais tout dédier à vos voyageurs, à vraiment vous mettre en retrait et habiter dans un mouchoir de poche.
Oui, il y avait un peu de ça. Alors après, quand tu arrives de Paris, tu as l'habitude d'habiter dans
des
apparts un peu petits et tout. Donc, j'avais envie quand même de pouvoir... ouvrir la porte du rez-de-chaussée et me dire je suis dans mon jardin, que les enfants puissent en profiter. C'est un vrai sujet aussi d'envisager une maison d'hôte, enfin un endroit comme ça, avec une famille, avec une vie de famille. Il y a, bon, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, mais ça peut freiner certains, et je pense qu'il faut pas que ce soit un frein, parce que finalement, c'est ce qui plaît aussi. Il y a cette énergie. Il y a des enfants qui jouent dans le jardin, qui font un peu de bruit, qui vont se baigner de temps en temps dans la piscine, même si on les bride un peu. Mais on a envie de les laisser en profiter. Et du coup, oui, dans l'aménagement, c'est vrai qu'il y a ce temps un petit peu où on s'installe, on descend avec les enfants font leur rentrée. En fait, ça s'est assez bien goupillé parce que c'était... C'était en corrélation avec la rentrée des classes. Finalement, on est arrivé fin août, ils sont rentrés début septembre. Ouais. Voilà, on a réussi à les inscrire dans l'école qu'on voulait juste derrière. Enfin, voilà, ça roulait, quoi. Il y avait vraiment... Les feux étaient verts.
Toi, tu quittes le boulot à Paris avec une rupture conventionnelle?
Alors, moi, je travaille encore à ce moment-là.
D'accord.
Je travaille encore, je fais des allers-retours. Je suis en télétravail, je fais des allers-retours. On a du mal à dealer une rupture conventionnelle. Et je fais un suivi de conjoint.
D'accord, ok.
Finalement, je fais un suivi de conjoint.
Donc,
enfin,
c'est
je
ce
trouve,
qui te permet d'avoir quand même une petite sécurité financière.
Oui, parce que je ne pouvais pas partir sans filet. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dire, j'ai rien. Moi, j'ai vendu une maison. Enfin, les malheureux hasards de la vie ont fait qu'à ce moment-là, nous, on a vendu une maison familiale avec ma sœur et mes oncles parce que on avait hérité de cette maison avec ma sœur. Et ça a permis de récupérer des fonds au même moment. C'est-à-dire que c'est assez... la vie est marrante, mais j'ai vendu cette maison le jour où j'ai acheté la maison sumienne. Donc, enfin, il y avait tout un truc un peu... voilà, on y met la symbolique qu'on veut, mais il y avait quelque chose... Il y avait une forme de continuité, quoi. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, la petite maison près de la piscine s'appelle Cantrane, qui était le nom de cette maison à La Ciotat, maison familiale qu'on avait... qu'on avait à La Ciotat, qu'on adorait, mais voilà. Et donc voilà, donc il y a eu quand même de l'investissement perso. Et quand on arrive, effectivement, on se dit voilà, comment est-ce que on va réussir à vivre? Il faut qu'on puisse vivre dans cette maison tout en pouvant l'exploiter, etc. Et donc en fait, on occupe l'aile droite de la maison. Où on a aménagé la verrière, nous, en salon perso. On s'est créé une chambre, une salle de bain, voilà, tout ce qu'il fallait. Et finalement, on a gardé une partie de l'étage, du premier étage, pour les enfants. Mmh. Il y avait déjà une grande chambre avec une salle de bain, et on a créé une chambre pour Léon. Et ça, Cassandra nous a beaucoup, beaucoup aidés dans la vision et dans la création de ces espaces-là. On a créé un escalier, on a créé une trémie dans la cuisine qui n'était pas là. Pareil, voilà, ça, c'est Charles et Cassandra qui ont essayé d'optimiser au mieux pour voir comment installer ça et sans que ça prenne trop de place et que les enfants aient vraiment leur espace. Donc voilà, donc ça, moi, je suis hyper contente de finalement que ça ait pris du temps un petit peu en réflexion, qu'on ait changé l'idée, que... Et je suis très contente du résultat et de comment on vit aujourd'hui, comment on occupe la maison.
Je suis d'accord parce que j'ai l'impression que quand j'ai des retours d'expérience, quand les personnes prennent le temps d'y vivre un petit peu avant de se lancer dans les aménagements, dans les travaux, ben finalement, comme tu le dis très bien, les plans changent parce que c'est en y vivant qu'on se rend compte de la luminosité, de la circulation de nos habitudes, des bruits qu'on n'imaginait pas, ce genre de choses. Et donc, on revoit un petit peu et ça devient plus pertinent aussi dans la façon dont on aborde les changements.
Exactement. Et après, l'aménagement de la maison, c'est une maison qui est particulière parce qu'elle a ses décors. Donc, au premier étage, il faut imaginer qu'on est dans une bastide provençale avec des décors peints au plafond, avec un environnement qui est un petit peu propre à chaque espace, une déco. Et donc, dans la chambre haute, on a une vieille cuisine où il y a encore les vieux fours, la pile provençale.
Ouais, canon.
Et donc ça, on ne peut pas envisager de tout casser.
De détruire, bien sûr. Voilà.
Donc c'est vrai qu'on donne un petit peu ce challenge à l'équipe MRC, l'équipe de Charles, en leur disant, nous, on veut garder nos plafonds peints, les décors, on veut garder l'esprit... Bastide, on veut garder là, si possible, la pile provençale, le four, on va en faire quelque chose. Et donc, on élabore, mais c'est assez marrant parce qu'on a des idées, mais on élabore quand même beaucoup ensemble. On passe dans les espaces, on dit là, ça, on garde, ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ce qu'on disait, c'est que moi, je me suis jamais projetée dans des travaux. C'est nouveau. Donc, il y a plein de fois où je les laisse un petit peu dans le vide parce que j'ai tendance à dire « je sais pas ». Là, pour l'instant, tu me poses cette question. Là, je sais pas. Donc, je pense que c'était parfois pas hyper agréable.
Pas confortable pour
pas
eux.
Pas confortable pour eux. Parce que l'idée, enfin, ils allaient assez vite et que parfois, j'étais un peu... il fallait que les pièces circulent, il fallait que ce soit simple, que chaque pièce ait ses WC, sa salle de bain, que les gens soient vraiment complètement autonomes et tranquilles quand ils sont posés dans un espace. On leur a donné des bons petits challenges parce que dans la chambre Cassandra, justement, c'était une salle à manger, cette pièce. Il faut imaginer que tu arrives en haut de l'escalier au premier étage et que tu rentres dans une salle à manger. Donc, il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a rien. Tu es dans une vieille maison, donc tu n'as pas envie de casser tout, de mettre du faux plafond partout. Voilà. Et en fait, ce qui était assez agréable, c'était qu'on n'avait jamais un non. Jamais Charles nous a dit « non, mais là, on ne peut pas le faire, en fait ».
Mais ça, c'est génial, parce que moi, c'est ce avec quoi je me bats aussi, c'est les non catégoriques. Non, je veux un oui, mais un non, je ne le veux pas, quoi.
C'est hyper agréable, parce que moi, je me suis dit, on va être limité et tout. Et en fait, non, c'était... Il y avait toujours un moyen de...
De contourner, trouver une solution.
Exactement.
Toi, tu te projetais, Guillaume ?
Alors, moi, je me projetais en généraliste. Je me disais, le lieu, on veut que ce soit OK pour les familles. Donc, il nous faut des espaces un peu sous forme d'appartements, avec des cuisines, avec tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être indépendants. Il faut surtout conserver... ces décors magnifiques au premier étage. Donc, du coup, la partie chambre d'hôte, elle était assez bien définie dès le départ versus la partie petits appartements, gîtes, etc. On se projetait, mais comme le disait très bien Delphine, il y avait une communication qui était quand même assez cool. Et eux, ils ont ce savoir-faire qui est qu'en fait, ils savent tout faire. Et l'ambiance est géniale. Donc, t'as pas ce truc sur les chantiers de « Ah bah tiens, bah, le mec qui fait les parquets, bah, il a la bourre. Ah bah du coup, c'est sa faute. Donc du coup, j'ai pas pu démarrer ce truc-là. » Donc voilà, tout s'est fait de manière assez fluide et dans une top ambiance. Et ça, c'est important.
Et quand Charles y débarque avec ses équipes, on part pour combien de temps de travaux ?
On part pour, on sait qu'on est... nous, dans l'idéal, on voulait 6 mois, 6-7 mois. Franchement, ils ont tenu les délais parce qu'il y a dû avoir un petit mois et demi en plus. Et on leur a mis plein de trucs.
Et tu rajoutes au fur et à mesure en plus. Donc, okay.
Moi, j'étais pas capable de leur dire au départ, bah, tiens, la maison, elle est en monophasé. Ah, bah, tiens, il faut tout foutre en triphasé. Il y a beaucoup de choses forcément qui nécessitaient qu'ils soient sur place.
Pour s'en rendre
compte. Et la seule première visite, ça suffisait pas pour envisager toute la quantité des choses à faire. Mais ça a été assez colossal. Moi, j'ai profité du fait c'est des experts, ils savent faire, pour me lancer un peu dans quelques travaux. Ouais. De toute façon, je savais que c'est important quand même dans ce genre de maison de savoir se servir d'outils.
Je pense qu'il faut savoir bricoler quand même.
Et voilà, alors Delphine, elle me mettait une limite, tu ne te sers pas de la meuleuse, tu vas te couper les doigts, etc. Moi, j'avais plutôt envie de me dire, tiens, je le fais quand même un peu, quoi. Enfin, j'ai envie de me tester sur ces trucs-là. Donc, j'ai refait quelques petits trucs, j'ai fait des crédences.
Ça t'a plu ?
Ça m'a plu. À la fin, par contre, je ne pouvais plus voir un tournevis. Après avoir monté 40 appliques, une serre avec des joints, pas les
serres. La serre est sublime, je suis allée voir ce matin, c'est canon.
C'était horrible, en fait, à monter. Tu as des plans, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces plans-là ? J'ai jamais vu des plans pareils.
Pire
quoi.
Que les plans d'IKEA.
Ah, mais mille fois pire, et puis en anglais, quoi. Donc la galère. Non, mais bref, mais tout ça fait partie de l'histoire et de l'aventure, et franchement, c'était chouette, en tout cas, de les avoir sur place pour pouvoir, moi, me former un certain nombre de choses, parce que des petites réparations, ça
fait un peu partie. Et d'être dispo pour répondre à toutes les questions, parce que j'imagine que c'est ça aussi, quoi. Moi, je le vis un petit peu, et c'est ça, en fait, ils viennent sonner toutes les 5 minutes. Bon, ben là, la prise, nanani, nana, et tu te rends compte à quel point il faut être hyper présent.
Ouais, il fallait être là, et du coup, c'était bien. À ce moment-là, j'arrête, moi, de travailler, justement.
D'accord. Donc, vous êtes tous les deux à temps plein dans la maison.
Et on est là en se disant, là, il va falloir aussi envisager de meubler cette maison.
Elle était vide quand vous la reprenez. Était... Ou il reste quelques bricoles.
Il y avait quelques bricoles, mais on n'a pas tout gardé. Enfin, ouais, il y avait quelques trucs, voilà. Mais c'était, enfin non, globalement, elle était vide. Globalement, elle était vide. On est arrivé avec nos meubles, mais bon, on arrivait d'un 75 mètres carrés, donc enfin,
c'était vite posé.
Rien à voir. Mais il y a tout ce travail-là aussi qui démarre. Et là, c'était un peu ma partie. C'est-à-dire que c'est là où Guillaume, il m'attendait un peu au tournant. Et je suis un peu perdue. J'ai un peu cette phase, on est en travaux.
Toujours parce que tu n'arrives pas à te projeter ou parce qu'il y a tellement à remplir et à meubler que tu te dis...
C'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des choses, j'élabore des choses dans ma tête, etc. Je vois l'ambiance, je vois les choses que je projette, mais ce n'est pas hyper concret. Et en fait, c'est là où on est très différents, Guillaume, et hyper concret, hyper... t'as décidé ça, tu fais ça. Enfin, voilà, c'est très action-réaction. Moi, je suis beaucoup plus... j'ai besoin d'infuser. J'ai besoin de plus de temps. Et du coup, ouais, on commence à entreprendre de chiner à droite, à gauche. Parce que c'est pareil, on se rend compte que les travaux, ben, coûtent... Enfin, il y a des choses qui s'ajoutent au fur et à mesure.
Toujours.
Il y a des questions de peinture qu'on n'avait pas forcément sur certaines parties. On se dit, non, mais là, il faut le faire. Enfin, c'est ridicule. On ne va pas ne pas mettre au propre là.
Et... Oui, tu chipotes plus au bout d'un moment. Et...
On se dit, non, on y va, tant pis. Et donc, en fait, on ajoute des choses, on ajoute. Et ben, ça vient grignoter le budget déco.
D'accord. Ça vient On prend dans un budget pour rajouter dans l'autre.
Clairement, ça vient grignoter le budget déco. Et où on se dit, bon, ben, en fait, tes petites marques un peu branchouilles, design et tout, ben, ça va être compliqué. Donc, on chine. On a beaucoup travaillé, ça, moi, je suis hyper contente, avec la ressourcerie de Brignoles et de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, à côté. On a eu un super accueil à chaque fois. On a eu accès même de temps en temps à l'entrepôt. Enfin, ils nous mettaient des choses de côté. Enfin, il y a eu vraiment un accueil très favorable à notre projet. Et on a trouvé, en plus, c'était assez chouette parce qu'on trouvait à chaque fois des choses intéressantes pour la maison. Et là, oui, ça commençait à être un peu plus concret pour moi. D'accord. Je commençais à être un peu plus imprégnée de la maison, de ses décors. On a une... voilà, parce qu'il y a une partie qui est un petit peu plus provençale, une partie qui est complètement asiatique.
Oui, la donc, chambre.
Donc on s'est dit, bah, dans cette chambre asiatique, il faut qu'on joue le jeu de cette déco,
de cet univers,
exactement, de cette ambiance, tout en restant, tout en restant dans quelque chose de chic et de simple. Et voilà, et là, on commence à prendre plaisir, à chiner, à aller chercher des objets. À les retaper aussi, parce qu'il y a aussi tout un travail où finalement bah, tu ponces, tu repeins, tu redonnes un peu vie à des vieux meubles. Et ça a été très chouette, en fait, de d'aller chercher des vieux objets et de récupérer des meubles de famille aussi.
Ah, super.
Ouais, notamment bah, la banquette, les banquettes qui sont dans l'entrée.
Oui.
C'est des meubles que j'ai toujours connus, qui étaient chez mes grands-parents.
Trop chouette.
Donc ça c'est hyper hyper chouette aussi de se dire je sais pas, la commode de ma grand-mère machin, elle est là. Donc c'est voilà, il y a un côté aussi sentimental et de se dire on fait vivre en fait ces meubles à travers le temps, comme on utilise toute la ménagère, l'argenterie de la grand-mère de Guillaume. En fait, elle vit cette argenterie, on la laisse. C'est vrai que les gens nous disent, ah, mais vous êtes fous, vous laissez et tout. En fait, on fait vivre en fait, c'est tous ces biens, tous ces meubles, toutes ces choses.
Après cet héritage familial.
Ouais, exactement. Ouais.
Le petit gîte que vous avez dans le jardin, vous le faites en même temps que toute la maison, ça fait partie de l'enveloppe travaux globale.
Oui, exactement. Il attaque en dernier, c'était plus ou moins en dernier. Et ils vont très vite sur ce gîte. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans quelque chose qui est un pool house qui n'a jamais été aménagé.
Oui.
C'est un grenier, quoi.
Mm-hmm.
C'est un grenier, c'est pas isolé, c'est pas, enfin, il y a un gros boulot. Il y a ce petit escalier hyper mignon, mais qui est tout délabré. Et là, ils m'ont vraiment bluffé parce qu'ils sont allés très vite. Ils ont hyper bien bossé. Voilà, il y a toujours des trucs auxquels on pense pas. Il y avait pas de garde-corps aux fenêtres, par exemple. On se dit, à la fin, on arrive, on fait non, mais en fait, il y a pas de garde-corps, on n'y a pas pensé. Et, et en fait, voilà, c'était. Et là, c'est pas un problème. Ah ben attends, non, mais c'est bon, on s'en occupe. Enfin, voilà, il y a pareil, on a élaboré des choses avec Cassandra. On a repensé d'autres choses après.
Le jardin aussi, il se dessine à ce moment-là. ou ça intervient peut-être un peu plus tard?
C'est plus tard, le jardin, on galère parce qu'on a nos plans. On a Bénédicte qui a bossé depuis l'Argentine sur nos plans, on est trop contents et tout. Mais on galère avec les jardiniers paysagistes locaux.
Ah.
Et on contacte d'abord une première entreprise sur Brignoles, qui est un peu la plus connue, celle qui prend les plus gros chantiers. Les types viennent et en fait, on n'a pas de nouvelles pendant 2 mois. Et on rappelle, on n'a pas de nouvelles. Et finalement, on rappelle quelqu'un d'autre, on lui envoie notre projet. Et il se déplace assez vite et il prend assez vite le chantier. Donc on est plutôt contents, ça se passe très bien. Franchement, on est plutôt sur la fin de chantier, c'est-à-dire qu'on est... On projette une ouverture fin juin. Là, on est au mois de mai.
D'accord.
Donc, on est un peu tard pour planter et tout. Enfin, oui. y a quand même on est sur des délais qui sont un petit peu tard. Mais bon, ils font le job. Ça marche bien. Finalement, on arrive à ouvrir la maison avec un beau jardin, une maison terminée.
Donc, on décale à peu près un petit mois par rapport aux projections?
Oui, un mois à peu près.
Et pendant cette période de travaux, donc au-delà d'aménager, de décorer, etc., il faut imaginer comment on va gérer l'activité. Est-ce qu'on s'entraîne à faire des petits déj? Est-ce qu'on réfléchit à sa grille tarifaire? Ou ça, c'était déjà dans le business plan, tout était hyper déjà calé?
Oui, on revoit un peu la grille, mais c'est de l'ajustement.
Ouais.
Mais enfin,
la stratégie globale, elle était déjà dans la tête.
Globale, on savait à qui on allait s'adresser, aux entreprises, aux vacanciers.
Via quelle plateforme et tout.
Notre schéma d'activité, il était déjà assez clair. Après, sur la partie cuisine, on s'est entraîné. c'est assez drôle. Du coup, on avait nos entrepreneurs qui testaient tout ce qu'on pouvait faire.
Excellent. Bah, ils
Mais au début, tu pars sur plein de trucs, tu as plein d'envies. Donc, tu fais des gaufres avec une pâte à la courgette et à la feta, olive noire. Enfin, tu fais plein de trucs et tu t'aperçois au final que ça ne va pas tenir parce que ça sera chronophage.
Oui. L'assise mort.
Bon, après, tu te limites à ce que tu sais faire tout en gardant en tête que l'idée, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. Enfin, tu travailles très local, tu te dis avec des très beaux produits locaux et en fait, on a plein d'artisans qui sont géniaux autour de nous. Tu vas pouvoir faire des trucs qui sont chouettes, qui vont faire plaisir et puis tu te concentres là-dessus. Après, dans le planning de distribution, toutes ces choses-là, elles étaient quand même pas mal travaillées en amont.
Vous travaillez avec un channel manager. Est-ce que c'est grâce à la formation avec Claire de Maison Sarah et Fine que vous identifiez que ça peut être indispensable pour la gestion ou c'est par un autre biais?
Non, mais alors moi, du coup, je venais du tourisme d'une certaine manière. Alors, je ne tenais pas les clés en tant que tenancier, mais tout ce schéma-là, le revenu management, la grille tarifaire, les réseaux de distribution... Mais même après d'autres sujets plus liés à mes activités dans l'entrepreneuriat, on va dire, c'était des choses sur lesquelles j'étais plutôt à l'aise et confort. Voilà.
Okay. Donc vous choisissez de travailler avec Amenities.
Exactement.
Tout le paramétrage, je crois que c'est Delphine qui s'y colle et c'est pas, c'est pas une réussite au départ.
Je vais lui laisser le micro, mais ça, c'est un peu ma faute. C'est-à-dire que, franchement, sur l'aspect décoration, etc., quand elle disait qu'elle était un peu perdue, moi, j'étais bluffé parce que je trouvais qu'elle ne l'était pas, quoi.
Ouais.
C'est genre, elle savait, tiens, mais je mets ces petites bondieuseries, ça va le faire, mais jamais j'aurais eu l'idée.
D'accord.
Trouver des meubles jolis comme elle, ça, c'était OK parce que j'aime bien ça. Mais derrière...
Savoir après comment les agencer et assembler.
Exactement. Donc, on savait que les réseaux sociaux, la direction artistique, tout ça, c'était plutôt elle. Mais en même temps, vu qu'on était deux et qu'il y avait plein de trucs à faire, je lui ai dit, tu t'occupes des plateformes de distribution, des bookings et autres. Mais ce n'était pas forcément sa cam au départ.
Tu as su dompter la bête?
Non, pas du tout. Ça a été un peu catastrophique. On a fait... Enfin, Amenities, on sent qu'on a affaire à une start-up un peu dynamique, etc. Ouais. Ils sont assez dispo au début. Et c'est vrai qu'ils me demandent assez vite de créer un compte sur Booking, comme on te racontait. Et en fait, on l'ouvre trop tôt. Enfin, moi, j'y comprends rien. Je trouve ça assez compliqué, finalement... pas hyper intuitif. On s'est un peu planté parce qu'on a eu une réservation qui n'était pas prévue à ce moment-là. mais du coup, on a appris.
Bah,
c'était une expérience
efficace aussi quelque part. Mais Guillaume a repris la main assez vite sur Amenities et sur les plateformes de distribution. Ouais.
Aujourd'hui, ça vous coûte combien mensuellement le channel?
On est à 85,70 €, je crois.
Ok, c'est précis, dis donc, carrément.
Je savais que tu venais, donc j'ai tout.
Et vous êtes donc sur Airbnb, sur Booking. Alors, est-ce que tu peux nous citer un peu les canaux?
Le réseau de distribution, il est assez tentaculaire. Mais en même temps, on est, on va dire, en test and learn. C'est-à-dire que pour l'instant, on les teste, toutes ces plateformes. Et puis, bien entendu, l'idée, c'est d'essayer de favoriser le direct et de reverser le moins possible. Mais bon, pour l'instant, on se coupe de rien. Bon, on fait les choses avec logique. Ouais. Mais on est à la fois sur Booking, qui est hyper important pour la partie chambre d'hôte. Ça fonctionne très bien. On a une grosse partie de notre activité. Aujourd'hui, c'est près de 60% de notre activité qui est sur des privatisations. Et ça, c'est essentiellement via du Airbnb.
D'accord, une formule plutôt gîte, en gestion libre.
Exactement, on donne les clés à des grands groupes et nous, on part. Voilà. Et ensuite, il y a des plateformes niches qu'on adore, type Enschke, parce que ça nous apporte exactement la clientèle qu'on veut, qui sont des gens qui sont déjà conquis et qui sont intéressés par le lieu et son histoire. Et après, il y a toute la partie entreprise B2B.
Ouais.
Et là, on va être chez Séminaire Collection, on va être référencé dans un certain nombre d'agences de shooting. D'accord. Mais voilà, il y en a beaucoup. On fera le tri quand ce sera le
moment.
Avec
un peu de recul.
Voilà. Mais bon, le direct est quand même assez costaud, quoi qu'il en soit, chez nous. Alors peut-être qu'Enschke joue beaucoup là-dessus.
Oui, parce que ça reste un annuaire. Donc en fait, les gens savent, vous repèrent, mais après, ça bascule sur votre
site.
C'est
ça, tu payes un forfait, c'est un fee que tu payes en début d'année. Voilà. Mais tu ne payes pas une commission. Oui. Et donc, du coup, moi, je ne sais pas si... Enfin, je pose souvent la question
vous
à mes
nous
clients.
Avez connu.
Exactement. Et Enschke, franchement, c'est assez bluffant. Mais c'est globalement le même profil de gens ouverts, de gens passionnés, de gens sensibles, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, le direct, on est à un peu plus de 60%. Donc, on a vite
vraiment,
trouvé...
Vraiment, c'est chaud, c'est super.
C'est assez chouette. Après, il y a aussi beaucoup de raisons... En fait, si tu veux, on est dans un endroit dans le Haut Var où il y a beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de châteaux qui organisent des mariages et on est le point relais pour tous ces gros mariages. Donc, on a beaucoup de gens qui nous appellent directement.
Des invités qui viennent, qui réservent chez toi.
Okay. Exactement, parce qu'on est en connexion avec tous ces châteaux.
Génial.
Très rapidement, je les ai tous appelés en disant, voilà, Maison Sumiane, c'est joli, l'univers est vachement sympa. En complément et en maison annexe des mariages organisés chez vous, ça colle, quoi.
Tout à fait. Ah, très, très stratégique et très pertinent. Effectivement, moi, je dis toujours à ceux qui s'installent, regardez autour de vous les gros sites de réception parce que vous serez toujours un complément d'hébergement pour ces sites-là. Donc, c'est super. On ouvre les calendriers, etc. Les résas tombent. Est-ce que ça se remplit vite? Est-ce que c'est stressant? Et comment ça s'organise les prochains mois?
Alors, stressant, forcément. Hein.
Ouais.
L'aspect financier dans ce type d'activité... parce qu'il n'y a pas un delta énorme entre les dépenses et les recettes. Et nous, à titre très personnel, l'emprunt est quand même assez conséquent.
Tu as négocié un petit écart
remboursement.
Oui.
Okay. Ouais. Mais malgré tout, c'est quand même assez stressant. Et puis, tu ne sais pas comment ça va marcher.
Ouais.
Même si tu te dis, bon, le terrain de jeu, il est incroyable, il y a plein de choses à faire, la maison, elle a plein d'arguments qui vont faire venir. Tu sais pas, mais effectivement, moi, je me rappelle de ce doux bruit qui est quand même assez chouette d'Amenities où t'as cling, cling, cling,
ouais.
Et c'est les résas. Et en plein été, franchement, on a rempli assez vite. Après, je reviendrai peut-être avec Delphine, soit l'un, soit l'autre, sur l'anecdote de notre première réservation, parce
oui.
que c'est méga loufoque, oui. Ça se raconte. Mais quoi qu'il en soit, ouais, ça s'est rempli assez vite. Après, c'était surprenant parce que post-été... Du coup, tu as un peu le calme et tu ne le comprends pas parce que tu t'es dit, mais attends, ça cartonne, on a plein de gens. Et d'un coup, tu as cette espèce de ralenti qui fait que tu te dis, waouh, en fait, voilà, faut garder de la trésor, faut faire gaffe.
Ouais. Et comment je complète sur des périodes plus creuses avec une autre clientèle éventuellement ou une autre formule. Ouais.
Voilà, bah, tu vois, dans les plateformes de distribution, on s'est mis sur Expedia qui n'est pas forcément la plateforme première, mais en même temps sur les commerciaux itinérants ou tous les gens qui sont... des gens du business et de passage, ça nous permet d'apporter un complément certain en semaine. C'est chouette.
La clientèle qui arrive, est-ce que c'est celle que tu projetais? Est-ce que ça se confirme par rapport à ce que vous espériez ou vous êtes peut-être surpris aussi?
Alors moi, j'ai envie de dire oui, mais...
Au tout début, on n'a pas fait... Enfin, la maison, elle n'est pas connue. C'est vraiment un peu les gens qui ont besoin de trouver un hébergement dans leur parcours, sur leur trajet de vacances, une étape, exactement. Donc au tout début, c'est assez marrant. On a beaucoup d'étrangers qui sont en vacances en Provence. C'est hyper sympa. La clientèle qu'on a projetée, qu'elle vient un petit peu plus après. Un peu famille, un peu sympa. Ouais, ça vient peut-être l'année d'après, je trouve, quand la maison est un petit peu plus connue. Je sais pas, peut-être via d'autres, via les réseaux de distribution.
Ça mature peut-être un peu.
On est hyper contents globalement de la clientèle qu'on a. On n'a pas eu d'expérience négative, à part une location complète de la maison auprès de jeunes Anglais qui sont venus fêter le couronnement de Charles et leurs 30 ans et qui ont fait n'importe quoi pendant 2 jours, 3 jours, où ça a été une catastrophe.
Parle de pipi dans les rideaux.
Exactement. Et de... c'était catastrophique. Mis à part ça, globalement, je trouve qu'on a une clientèle très sympa. Assez internationale aussi, on en parlait, c'est hyper agréable. Je travaille un peu mon anglais de temps en temps. Mais c'est toujours enrichissant quoi, de découvrir... D'autres cultures, d'autres lieux, des histoires de chacun, de partager tout ça.
Est-ce que vous avez déjà eu des porteurs de projets qui sont venus séjourner parce qu'ils projettent eux-mêmes de se lancer dans l'activité dans le coin ou pas du tout dans le coin, mais parce que l'univers que vous avez créé les inspire et leur plaît?
On a eu ça, puis on a eu autre chose. On a eu des gens aussi qui voulaient s'installer dans le sud-est de par leur activité pro et qui du coup utilisaient Maison Sumiane comme point d'ancrage et point de découverte. Et on a eu, on a eu aussi des. Alors ça passe, c'est un épiphénomène. Hein, on n'en a pas eu énormément, mais j'ai déjà, en tout cas, souvenir d'avoir échangé soit avec des gens du métier, soit avec des gens qui voulaient se lancer, quoi.
D'accord.
Pour voir qu'est-ce que c'est la vraie vie de cette activité, etc.
Et justement, super transition. C'est quoi la vraie vie? Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien un peu, Guillaume, toi qui es... on va le dire par rapport à Delphine, plus le gérant. Une journée type, par exemple
c'est plein de choses. Il y a la partie opérationnelle. La partie opérationnelle, ça va être faire tes achats, de dresser les tables de ton petit déjeuner. Ça va être de gérer ton linge, parce qu'on le fait nous. Ça fait partie des choses qu'on fait en propre. Et ensuite, tu vas avoir la partie gestion de boîte, l'air de rien. Tu as ton calendrier, ta distribution, tu as ta comptabilité, tu as ta finance, tu as toutes ces choses-là. Et ensuite, tu as aussi une autre partie qui est hyper importante, qui est vraiment l'âme de notre métier, qui est toute la relation que tu vas avoir directement avec tes clients sur place ou en direct quand ils te posent des questions par mail auxquelles tu vas répondre. Et après, moi, il y a quelque chose d'assez spécifique et que je n'avais pas quand j'étais à Paris, c'est plus de temps avec les enfants. On avait une aide à domicile quand on bossait tous les deux à Paris, on rentrait tard le soir. Ben là, je vais chercher les enfants à la sortie de l'école. J'ai le tunnel des parents avec les devoirs, le bain, faire à manger, en même temps que je cumule avec les accueils.
Tout à fait.
Tu vois Donc, les enfants, c'est quand même une partie importante aujourd'hui, beaucoup plus importante de ma vie que celle qu'elle occupait, en tout cas en termes de temps passé à Paris.
Oui, et peut-être en quantité, ça peut être... c'est supérieur, certes, mais en tout cas, la qualité est différente aussi du temps que tu,
c'est
que
sûr.
Tu as.
Et du coup, ils n'avaient pas cette habitude-là. Maintenant, ils sont en demande et ils aimeraient que maman...
Oui, Delphine soit aussi un peu plus dispo.
Mais non, vraiment, ça, c'est une chance. C'est-à-dire que quand on fait des privatisations, on peut partir tous ensemble en famille, soit à la découverte de la région, soit chez nos familles et nos amis qui ne sont pas si loin
à
que ça.
À proximité.
Moi, j'ai plus 5 semaines de vacances par an. Enfin, je travaille différemment parce que je travaille le week-end, mais En même temps, c'est hyper agréable.
Est-ce que tu as la boule au ventre du dimanche soir? Le non. Blues, le fameux blues. Et non, toi, Delphine, est-ce que tu l'as? Ouais.
Moi, je suis une grosse blouseuse du dimanche soir.
Ah, ouais, moi aussi.
Après, j'ai moins l'impression d'être comme à Paris, le petit hamster qui court dans sa roue, quoi. Il y a quand même.
Et alors, est-ce que c'est pas compliqué que tes week-ends soient un peu plus tournés autour de l'activité? Est-ce que tu te sens pas. Lésé avec du temps libre ou te dire mince, quoi, je sais pas comment tu l'abordes, hein, mais demain il y a les petits déj, moi j'aurais voulu faire une grasse mat et c'est mon moment aussi où je décompresse.
Alors la vérité c'est que j'ai quand même pas mal de grasse mat. Non, Guillaume gère majoritairement quand il y a des clients, les petits déj, etc. Okay. Sauf si s'il y a un gros coup de bourre avec du monde et tout, oui, je suis là. Ouais. Mais globalement, le deal c'est. Si je reprends un boulot de salarié, c'est pas pour faire double travail. Ouais. Voilà, ça, c'était pas d'accord. Possible. Et du coup, je profite des enfants aussi. Oui. Voilà, c'est là où je prends le relais. Je profite vraiment des enfants et tout. Donc ça s'équilibre aujourd'hui comme ça. C'est un nouvel équilibre parce que c'est assez récent, hein, finalement.
Oui.
Ça fait à peine un an qu'on refonctionne avec...
Oui, parce que t'as pas repris une activité, comme on l'a dit tout de suite. Donc, voilà. T'as repris une activité sur Aix. Donc, il y a un petit peu de route en plus.
Exactement. Donc, il y a cette... voilà, c'est assez nouveau. Mm. Et en fait, c'est assez marrant parce que finalement, c'est toujours... Il faut toujours jauger un nouvel équilibre. Il y a quand même ce truc de... Voilà, chacun doit aussi retrouver un équilibre personnel dans tout ça avec l'aventure Maison Sumienne et ce changement de vie. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça et c'est très bien comme ça aussi.
Ok. Pour revenir un peu sur la partie plus opérationnelle, donc tu nous as dit que tu gardais l'entretien du linge. Est-ce que tu n'as pas trouvé à qui déléguer ou vraiment c'est quelque chose qui te plaît et que tu as envie de garder en interne?
Bon, alors fondamentalement, non, ça ne me plaît pas.
Ah bon, d'accord. Ouais. Parce que franchement, je n'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui aime faire ça. Hein.
Non, mais sur, en bon gestionnaire de famille, c'était important de le faire nous-mêmes, le linge.
D'accord.
On a un linge qui est hyper pratique, donc du coup, on n'a pas forcément besoin de repasser si c'est bien étendu.
Tu as pris quelle gamme et chez qui?
Alors, on est globalement sur toute la partie lit, on est chez Teddy Bear. Donc,
d'accord.
C'est leur linge.
D'accord.
C'est les sommiers, c'est les matelas. On a tout pris chez eux.
Oreiller, couette.
Puis après, c'est intéressant parce que financièrement, quand tu achètes en gros...
Bien évidemment, tu réduis les coûts unitaires.
Mais voilà, donc le linge, c'est pas un plaisir. Mais si tu passes par un prestat extérieur, franchement, c'est... C'est hallucinant ce que tu payes sur le coût du lit et à la nuit, ce que tu reverses sur cette partie-là. Donc, c'était assez logique que je le fasse moi. Ensuite, on est aidé. On est aidé pour le ménage. On a quelqu'un qui vient assez régulièrement.
D'accord. T'as un contrat ou c'est de la prestation de service Comment tu fais
Elle, si tu veux, elle est en micro-société.
D'accord.
C'est sur de la prestation de...
Auto-horaire.
Exactement.
Ok, d'accord.
Voilà. Quelqu'un qui connaît bien la maison et ça, c'était important d'avoir...
C'est une locale.
C'est une locale,
trop
exactement.
Bien.
Et elle est aidée de temps en temps. J'ai aussi une autre personne quand, au niveau du planning, ça nécessite d'être plusieurs sur cette partie-là.
Ouais, quand il y a beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées le même jour, forcément.
Voilà. On est aussi aidé sur le jardin de manière assez ponctuelle, mais ils font quand même un gros boulot quand ils interviennent. Moi, j'essaye de faire ce que je peux faire. Donc,
plus de l'entretien.
Ouais, je vais tondre, je vais faire de la micro-coupe, je vais faire des choses que je maîtrise.
Mm-mm.
Mais sur le gros du jardin, etc., 4 fois par an, on a une société qui est top, qui intervient. Et la piscine aussi, c'est pas un petit sujet.
Ouais, c'est clair.
Donc, on l'a compris très tôt. Hein, c'est pas aux gens, notamment quand ils passent une semaine ici, de s'occuper de la piscine. Et puis, il y a un espèce de truc un peu de... faut être un chimiste, il faut...
Tout à fait d'accord.
Il faut être vachement attentif à la couleur de l'eau, etc. Donc, quand on est sur des locations longue durée, on a quelqu'un qui vient pendant le séjour pour pouvoir s'occuper de ça. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous avez proposé pour des séjours longue durée l'intervention de la femme de ménage aussi en cours de route? Ou est-ce que vous le proposez et ça n'a pas forcément
ménage, été... Le ménage est facturé. Si tu veux, c'est quand les gens sont là et qu'ils restent longtemps que ça, c'est une certitude. On leur demande quand est-ce qu'ils souhaitent qu'on refasse leur chambre, quand est-ce qu'ils souhaitent qu'on change leur drap. Mmh. Alors après, ça dépend de la conscience de chacun et de l'envie de chacun. Il y en a certains qui se disent « Non, mais attendez, ce n'est pas la peine, vous n'allez pas faire des machines, etc. » Quand on est sur des séjours à la semaine... Je ne crois pas que ce soit arrivé d'avoir des gens qui nous demandent.
De refaire.
Ouais. Mais après, ça n'a jamais duré plus d'une semaine.
D'accord.
Voilà. On est sur un format soit à la nuit, soit de nuit quand on est sur les espaces familiaux au minimum,
D'accord.
soit à la semaine.
À la semaine, c'est en juillet-août, tu étais en privatisation à ce moment-là?
Alors, sur août, c'est assez facile et là, c'est déjà fait. Sur juillet, de temps en temps, pendant les vacances scolaires, on le propose. Tu vois, à Noël, on a loué.
Ouais.
Mais c'est pas tout le temps, voilà.
D'accord,
Donc
ok.
après, on switch, on passe d'un modèle à l'autre. C'est ça qui est assez
Oui.
confortable. C'est que soit on décide d'être un micro-hôtel, j'ai envie de te dire, soit on décide d'être un grand gîte, on ne l'est pas parce qu'on est norme ERP, mais une maison à grande capacité pour que les gens viennent célébrer différents événements.
T'es sous quel statut juridique?
Alors, on est en société. On est
D'accord.
en société et on a deux sociétés. Il y a une société qui a acheté les murs, qui est une SCI familiale.
Ah, vous avez fait un montage SCI, ok.
Ouais, et voilà, Delphine a revendu
Oui.
pour pouvoir effectivement avoir un peu de cash. Moi, de mon côté, j'en avais un peu. Donc, on a monté
Donc
une
vous êtes tous les
SCI.
deux dans la
On est
SCI.
tous les deux dans la SCI, donc petite SCI familiale. Et ensuite, à côté de ça, on a une SARL pour la partie exploitation.
Qui loue
Ouais,
à la SCI
ouais.
les murs et qui. Ok.
Exactement. Après, on
Et.
n'avait pas vraiment le choix. Je suis désolé, je te
Ah,
coupe.
vas-y, non, non.
Pas vraiment le choix dans le sens où bah, le dossier financier, on le faisait
Oui.
passer sous le modèle de société. En particulier, c'était plus
D'accord,
compliqué.
ok.
Donc, c'était
Mais après,
sur
c'est
ce.
pas plus mal pour les travaux parce que c'est la SCI qui les
Ouais, tu as toute
absorbe.
la TVA
Ok,
que tu
voilà,
vas
c'est
aller
ça.
récupérer. Puis
Ouais.
ça, enfin, c'est du cash assez immédiat. Donc, du coup,
Oui.
tu récupères la TVA assez rapidement. Après, tu as juste
Oui.
à voir avec les impôts pour qu'ils te les reversent. Mais si tu as une enveloppe supplémentaire, ça permet quand même de combler le trou, quoi.
Et est-ce que tu es assimilé salarié, toi? T'es salarié de la SARL ou?
Non, pas pour
D'accord.
l'instant. Si tu veux, j'ai avancé un peu plus que prévu. Donc, du coup, l'année dernière, je ne me suis pas versé de salaire, bien entendu, mais j'ai fait du remboursement, ce qui m'a permis d'avoir un petit complément.
D'accord.
Mais bon, après, on en reparlera, mais c'est sûr qu'il y a besoin d'avoir un salaire à côté
Ouais.
pour pouvoir être confort. Après, nous, c'était comme ça qu'on l'entendait pour pas dégrader notre niveau de vie et être sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait à Paris. C'est comme ça que ça.
Delphine ne pourrait pas
Non.
quitter son job aujourd'hui. Est-ce que c'est une de vos envies? Bonne question.
On va jouer carte sur table.
Ah.
Non, mais on va dire les choses parce qu'en même temps, je trouve que c'est important aussi
Ouais.
d'être franc et de dire aussi aux gens, donner un peu l'envers du décor. La vérité, c'est que monter un projet en couple, élaborer un projet, etc., c'est super parce qu'en même temps, c'est un projet, au-delà du couple, c'est un projet, de famille.
Oui.
Et finalement, on s'est aussi aperçu que travailler ensemble et collaborer, c'était compliqué. Ouais, il y a cette réalité-là aussi qui s'est posée. Alors, c'est assez marrant parce que quand on a monté ce projet, je pense que nos copains, nos familles et tout, au départ, on pensait qu'on était fous, hein. Ils se sont dit, ça y est, ils nous font le plan des gars qui quittent Paris, qui lâchent tout. Mais ils vont travailler en couple et tout, c'est sûr. Enfin, donc les gens ne disaient pas trop ce qu'ils ont pensé, mais voilà, il y a eu cette réalité quand même où au moment des travaux, du lancement de la maison, etc., on s'est rendu compte que c'était quand même compliqué. On avait des tempéraments assez différents, une manière de bosser qui était différente, et qu'on avait quand même du mal à vraiment collaborer H24 ensemble. On y arrive très bien là, maintenant qu'il y a un petit peu plus de, voilà, de distance et de recul, mais le côté être tout le temps ensemble, tout partager, tout, c'est pas, voilà, ça fonctionne pas. Donc il y avait cette réalité-là. Après, pourquoi pas avec un autre projet à côté et une gestion complémentaire, mais être tous les deux aujourd'hui sur Maison Sumienne, c'est pas, bon, on l'envisage pas.
Quelle a été la demande la plus farfelue qu'on vous a déjà faite?
Tu vois, c'est une question piège, hein, parce que j'ai pas de célébrité qui m'ait demandé de poser l'hélicoptère sur le
Oui, ou
deck
un
de la
piano sur
piscine.
le toit.
Ou d'aller chercher le vin le plus cher de la Provence verte, etc. Non, j'ai d'autres anecdotes
Ah oui, avec
que je peux
plaisir.
te raconter. des choses farfelues. Il y en a une qui était assez amusante. Donc, comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui viennent pour des mariages. Et là, j'avais une famille allemande qui mariait leur fille dans un château très joli du coin. Et le matin, en me réveillant, bah, je retrouve le papa et la maman sur nos deux canapés, là, tu vois.
Là où on est.
Exactement. Donc, ils avaient perdu leurs clés, voilà, tout simplement. Alors, c'est des vieilles clés en plus, donc c'est un enfer à
refaire. Tu veux
ces
dire qu'ils
clés.
Avaient dormi
Ah, mais ils ont dormi
dans le salon?
dans le salon. Et forcément, ils avaient fait un peu la fête, parce qu'ils ont perdu leurs clés, pour, à mon avis, aussi de bonnes raisons. Et ils avaient fait un peu les tiroirs, tu vois, pour essayer de chercher les clés.
Non, ah oui,
Donc
bah
ça,
non,
c'est
ouais.
voilà, c'est une anecdote qui est drôle.
Oui.
Ensuite, ouais, franchement, on en a rigolé, tu vois. C'était, je sais pas si je me suis même autorisé à faire une ou deux blagues
Oh, oui.
parce que c'était
Faut les
sympa.
chambrer, là.
Voilà. Donc ça, c'est le genre de petites choses un peu farfelues qui peut arriver. Ouais, farfelu aussi, ça c'est quand même c'est farfelu et c'est iconique. Notre première réservation,
Ah, oui.
donc Booking, en fait, on le sait pas, mais Booking est live, donc les gens peuvent réserver. Et là, on est un mois avant l'ouverture officielle et la maison est en chantier. Mais quand je te dis en chantier, c'est il y a 1,5 tonne de gravats, le jardin est cafoutchouc comme pas possible. Et là-dessus, moi je suis en bleu de travail, je crois que je suis en train de repeindre un petit objet dans le jardin que je trouve assez chouette, etc. Nos enfants, c'est le week-end, sont à des anniversaires. Et là, le téléphone sonne, c'est votre client de Booking. Non, comment ça... enfin, au début, enfin, c'est... Non, c'est pas
Quoi?
possible, on n'est pas ouvert. Si, je vous assure. Et puis, il y a un petit moment d'hésitation, je crois que j'appelle Delphine. Tu vois, je cache mon téléphone pour pas que la personne entende. Attends, on a des clients, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère la situation? Puis là, la personne s'agace un peu, ça dure longtemps. Elle me dit, écoutez, ouvrez votre porte, vous avez une grosse voiture, pour pas citer de marque, devant votre porte. Et puis elle arrive avec les enfants dans une main, les bouées dans l'autre. Voilà, très très envie de découvrir Maison Sumiane. Sauf qu'en fait, on n'est pas ouvert. Donc là, faut prendre, tu vois, action-réaction, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Là, on a vraiment fonctionné en mode couple. Donc Delphine a pris cette dame avec elle, lui a fait visiter la maison, enfin la maison dans l'état où elle était. Moi, bien entendu, j'ai servi un verre de rosé à son mari et puis j'ai coupé Booking en disant stop,
Ah oui, là déjà.
ça n'arrivera plus. Et puis après, au final, ça s'est passé de manière hyper décontracte. On leur a dit, hein, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, on leur a fait à manger et puis on s'est couché à 2 h du matin.
Vous avez refait le monde autour de bonnes bouteilles de vin.
Oui, exactement. On a un peu sauvé la situation comme ça et les enfants se sont hyper bien entendus avec les leurs et du coup, ça s'est bien passé. Mais c'était marrant comme expérience parce que ça, c'était aussi se dire, ce métier finalement d'aubergiste, c'est aussi
C'est ça.
savoir et pouvoir faire face à n'importe
Ouais.
quelle situation en fait. Il faut. Donc on était vraiment déjà dans quelque chose de satisfaction, enfin de voilà, de satisfaire le client, et
Trouver des
de trouver
solutions.
des solutions, exactement. De pas être non, c'est pas possible, on l'envisage, enfin c'était pas envisageable, et de se dire ben on va se détendre, ça va être
Pas mort
cool,
d'homme.
ça va bien se passer.
Ouais. Mais ça, je trouve ça remarquable, quoi. Moi, ça me bluffe parce que j'aurais été dans tous mes états. Et comme je vous disais hier, moi, j'aurais juste appelé tous les établissements autour de chez moi pour leur payer une nuit et m'excuser 1 000 fois. Non, vous, oh, bon, ben allez, on va faire comme si on était potes et je vous sors des draps et puis
Et à une
on
heure
va
du
faire des
matin, elle
pâtes.
nous a expliqué qu'elle habitait à 1 h de la maison.
Non!
Ah si, je te jure.
C'est
Non
pas
mais
vrai!
ouais, non là c'est...
Non,
Tu vois,
alors elle pouvait
t'as la
repartir
mâchoire
sans
qui tombe, tu
problème!
fais mais pourquoi quoi en
Ah,
fait?
pourquoi insister
Mais
à
c'est
ce
un test en
point?
fait.
Ah ouais!
Mais tu travailles dans un guide, c'était pour...
Ah non, mais il y a une caméra cachée! Il y a quand même quelque
Ouais.
chose!
Non, après on savait qu'elle avait une copine parce qu'on lui a dit... Enfin elle était chez une amie mais elle n'envisageait pas de retourner
Oui!
chez elle et de dormir.
Non, mais habiter à
Mais
une
on savait pas
heure!
qu'elle habitait à 1 h de la maison.
Ah là là! Ah ouais, non, c'est cocasse quand même, hein. Bon, ok, trop drôle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter votre décision de changement de vie, d'ouvrir un hébergement?
Bah franchement, non.
D'accord.
Non, moi me concernant, non. Je trouve que je suis bien à ma place. J'aime ma nouvelle vie. Voilà, tu vois, le cadre, il est quand même dingue.
Oui.
Donc c'est sympa, j'aime ce que je fais. j'ai une forme de liberté. Puis du coup, je te remercie, Delphine, parce que c'est... Mais non, mais c'est aussi toi qui me l'offre. Donc ça, je ne regrette pas. Après, je prends sur moi, sur certaines choses sur lesquelles je ne suis pas forcément naturellement très à l'aise. La pression financière, tu te dis que effectivement, ben, ça peut aller vite. Tu as ta chaudière qui saute. Il faut être en mesure de pouvoir assumer ce genre de trucs. Mais vraiment, sur la globalité, j'ai envie de te dire que moi, je suis bien. C'est okay. Chouette.
Et toi, Delphine ?
Non, pas de regret, parce que finalement, je me sens à ma place. Il y a vraiment ce truc de se dire, ouais, c'était ça qui, on est sur la bonne route, le bon chemin, le bon timing. Non, non, je suis contente. Et puis c'est assez marrant, comme, enfin, ta question, elle soulève aussi. C'était assez compliqué, moi, pour moi, de regarder ce projet en étant fière de ce projet pendant un moment. Il m'a fallu du temps. C'est-à-dire que quand j'étais complètement consacrée au projet, dans la création et dans le lancement, je le faisais un peu... J'étais un peu dans le truc et j'avais aucun recul. J'avais pas beaucoup d'émotions. C'est assez bizarre, ça me ressemble pas du tout, mais j'avais...
Pilote automatique.
Ouais, j'étais un peu comme ça. Et j'avais pas beaucoup d'émotions, j'avais pas... Je me disais pas, ouais, t'es en train de faire un truc de dingue, en fait. Et c'est après... Après coup, je pense qu'il m'a bien fallu, ouais, après le lancement, 6 mois, 1 an, pour finalement me dire, mais ouais, en fait, on a réussi. C'est-à-dire que ce qu'on a écrit, ce qu'on a élaboré, ce à quoi on a pensé, ne serait-ce que même dans l'ambiance qu'on a voulu impulser dans cette maison, dans l'expérience, dans le ressenti, bah en fait, le résultat est là. C'est-à-dire que dans le retour client. Quand on nous dit ah, y a vraiment, enfin, y a une ambiance dans cette maison, on ressent quelque chose, il se passe un truc, enfin c'est un cadeau, enfin c'est vraiment ce retour là, il est hyper précieux parce que l'expérience client, en fait, le fait que les gens ressentent quelque chose et vivent quelque chose, c'était hyper important pour nous. C'était pas juste tu passes et tu viens dormir à Maison Sumienne parce que tu as un mariage dans le coin, et il y en a un, hein, pour qui c'est le cas. Mais voilà, les gens qui viennent et qui se posent et qui passent un week-end ici, qui nous font un retour en partant en disant on a vraiment adoré parce qu'il y a une ambiance particulière, il y a quelque chose. Bah là, on s'est dit, bon, bah là, on a réussi. Enfin, c'est chouette parce que c'était vraiment ce qui était important pour nous. Donc voilà, c'est pas de regret.
Ok, bon, très chouette. Et si vous pouviez recommencer, est-ce qu'il y a des choses quand même que vous feriez différemment?
Perso, alors c'est marrant, mais non. Parce que je pense que même si on a fait des erreurs ou même si on s'est planté sur des trucs... Ça a embrayé sur d'autres choses derrière qui étaient finalement mieux ou plus enrichissantes pour le projet. Donc j'ai pas de regrets. Enfin, je me dis pas j'aurais fait ça différemment.
Moi, je te rejoins, et s'il y a peut-être un truc que j'aurais fait peut-être un peu plus ou mieux, c'est l'intégration avec le local. Rencontrer un petit... Enfin, j'avais peut-être la tête dans le guidon, et encore une fois, c'est assez frais parce que ça fait moins de 2 ans encore. Mais j'ai rencontré des gens, mais je n'ai pas établi de choses suffisamment durables. Voilà. Après
ça c'est toujours possible.
Ouais, c'est quelque chose qui va se faire. Mais en tout cas, c'est un ressenti. J'avais souvent en tête ce truc de faut sortir de chez soi. Ouais. Après, ça, pour le compte, c'est vraiment... C'est quelque chose avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis avec Delphine. Enfin, tu vois, la découverte de lieux ou de gens, ça, bah, j'aime bien le partager. Et j'étais à l'aise à le partager avec Delphine. Maintenant, elle a moins de temps. Mais voilà. Après, moi, je me suis mis dans un organisme. Je suis au comité de direction du tourisme Provence-Verdon. Ce qui me permet d'échanger avec les politiques.
Locaux,
ouais, il y a pas mal de politiques. Il y a les gens du tourisme et il y a quelques personnes comme moi, socio-pro. Et du coup, on se rencontre une fois par mois et on échange autour de tout un tas de sujets. Et voilà, ça me...
Ouais, t'avais à cœur de t'implanter sur le territoire aussi pleinement.
Ça fait partie, déjà, de un... On parlera peut-être de labels, etc. Mais on a un positionnement qui est tourisme durable. Et dans le tourisme durable, le sens derrière ça, c'est aussi d'agir
Oui.
et d'être en lien avec le local.
Ah, super. Si la maison avait un slogan, quel serait-il?
Un slogan. Maintenant, on était vachement axé sur tout ce qui était justement l'art de vivre à la provençale, un peu
Ouais.
ce côté tu ralentis, tu viens chiller au soleil avec un bon petit verre de rosé et un petit peu de tapenade. Non, mais ouais, c'était un peu. Il y a un peu de ça. Après, le slogan, comme ça, je suis pas publicitaire, c'est toi.
On a dit dans la répartition des rôles que c'était toi toute la partie direction artistique. Non, mais l'art de vie à la provençale,
Ouais,
c'est pas
c'est
mal.
très bien. Moi, je
Ouais,
trouve que c'est parfait.
un écrin de verdure pour vivre
Oui.
sa meilleure vie à la provençale. Non, c'est absolument nul.
On va garder le premier.
Voilà.
Non, non, c'est très chouette. Alors, quelles sont les principales leçons que vous retenez de votre parcours?
Écoute, la première leçon, c'est de se faire confiance et de faire les choses avec sa personnalité, avec du cœur, avec sa propre identité. Des difficultés, tu vas forcément en avoir. Après, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, faire le truc
Toujours en
en
accord avec
étant
soi.
exactement. Ça, c'est quelque chose qui est important.
Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eue à surmonter?
Sur tout le projet
Sur
ou
tout,
sur.
tout, tout.
Non, sur
Quel
la maison
que
elle-même. Ouais,
soit le.
c'était peut-être la bagarre un peu avec les banques, le
ça c'est
montage,
Ouais,
etc.
ouais. Défendre le projet et trouver un financier.
Ouais,
Ouais,
non, un financement.
l'harmonie du couple.
Montage juridique. Ouais,
C'est les bases.
l'équilibre
Ouais.
familial. C'est vrai qu'on a aussi. Et ils sont trop mignons, ils ont suivi sans trop se poser de questions. Mais c'est vrai que les enfants aussi, enfin, tu vois, c'est pas rien.
Ah
On a
non.
tout changé.
Comment vous leur en parliez du projet? Comment vous leur expliquez? Bon, ben, on va déménager,
Ouais,
on
ils
va
ont suivi
aller.
tout ça. Ils ont suivi tout ça. Ils ont suivi un peu les événements. On les a pas mal préparés. Après, Léon, il avait quoi? Il avait 7 ans à l'époque. Il avait vraiment ses copains. Ça y est, il avait stabilisé un truc avec une bonne bande de copains, un truc hyper sympa à Paris et tout. Et donc, il voulait changer d'école, mais faire venir tous ses copains dans la nouvelle école. Enfin, il y avait toute une projection pour lui qui était compliquée.
Ses repères.
Ouais, ses repères et tout. Joséphine était vraiment plus petite. Elle avait fait juste une année de maternelle, donc c'était plus facile. Ouais, moi j'ai pris conscience quand même en arrivant ici, parce qu'ils nous parlent quand même beaucoup de Paris encore. Quand même pas mal ancré pour eux et tout. Que voilà, qu'on leur avait changé toute leur vie. Enfin, on a changé la nôtre, mais la leur avec, quoi. Donc voilà. Après, ils voient leurs cousins beaucoup plus souvent. Enfin, les cousins qui habitent dans le sud. Voilà, ils se sont fait des nouveaux copains et tout, mais. Mais quand même, enfin, il y a un truc, hein, c'est des petits Parisiens.
C'est oui, c'est clair. C'est une vraie changement de vie pour la famille, quoi. Il faut que tout le monde soit OK, hein. Il n'y
Ouais.
a pas photo. Quel est le plus beau souvenir que vous retenez à ce jour de tout ce parcours?
Alors, il y en a plusieurs. On a été hyper contents de fêter l'ouverture de Maison Sumienne avec nos copains, avec nos
Trop
potes, notre
chouette.
famille.
Un petit week-end de crémaillère?
On a fait un gros week-end,
Ah.
une
Oui,
grosse
un gros.
soirée, un peu événement. On a fait venir des copains qui sont musiciens. C'était super. Voilà, on a fait une grosse fête. Il y a des copains qui sont venus d'un peu partout fêter ça avec nous. Et c'était important parce que ouais, ça marquait un nouveau départ. Ça marquait. Ouais, c'était important de fêter cette maison sumienne
Partager.
et de partager ouais, et faire vivre l'expérience. Donc, il y a eu ça qui a été vraiment chouette. Et ouais, on a été hyper contents d'accueillir Fernande pour ses 99 ans à la maison. Ouais, c'est un événement qui m'a pas mal touchée parce que elle a une relation avec son arrière-petite-fille qui est vraiment particulière. Elle la met beaucoup en valeur sur les réseaux, mais on voit que c'est sincère en fait et qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la transmission, du partage et de la mise en valeur de la personne âgée dans tout ce qu'elle a apporté en fait
aux générations d'après. Et c'était hyper... on était hyper contents, en fait, de les recevoir à Maison Sumiane.
Le lieu de cet événement.
Ouais. Et j'ai trouvé ça très, très chouette.
Trop cool. Et toi, Guillaume ?
Ah non, mais alors là, du coup, elle a tout dit. Parce que je, sur l'opening, je la rejoins parce que c'était vraiment chouette. Hein. Enfin, de partager avec tes proches, tes amis, une vraie fête. Parce que c'est aussi... Enfin, c'est un lieu de vie. Attention, on n'est pas... que les gens ne viennent pas ici juste pour faire la fête. Mais bon, c'est un lieu de vie vachement sympa et de partage. Et là, du coup, c'est devenu une vraie réalité. Et puis, on a quand même fait un peu bien les choses. Ouais. Donc, nos potes musiciens sont plutôt bons. Ils nous ont fait un live qui était vachement chouette. On avait un DJ de l'Hôtel Amour de Nice qui nous a mis du bon son. Et puis, on avait des gens de partout. Donc, du coup, ça, c'était vraiment, c'était vraiment cool.
Ben, Guillaume, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils que tu aimerais prodiguer aux auditeurs qui souhaitent éventuellement se lancer eux aussi sur ce type d'activité ?
Alors, du coup, le premier, c'est un peu une redite par rapport à ce que je t'ai dit. C'est que il faut être conscient de la chose et il faut être honnête avec ça et vraiment avoir envie. C'est pas une lubie, donc c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup d'implications. Donc, il faut vraiment en avoir envie. Ça, c'est une nécessité absolue. Et puis, l'envie, au final, c'est un moteur, c'est ça qui te donne l'énergie. En deux, je te dirais... être bien conscient que ce n'est pas si facile que ça de pouvoir accéder à ce genre de projet. Et il faut travailler un maximum en amont avec son réseau, avec toutes les personnes qui peuvent être utiles pour avoir un dossier qui soit béton et donner toutes les chances. Est-ce que j'en ai un troisième ? Non, j'en ai pas forcément de troisième. Ces deux-là, ils me semblent assez importants pour... ça rejoint le fait de faire les choses sérieusement.
De l'aborder d'une façon la plus rigoureuse et profonde. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Delphine, je sais que tu écoutes le podcast. Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a un peu plus marqué qu'un autre, que tu recommanderais autour de toi ?
Oui, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Après, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Céline, de Maison Mastroelli.
D'accord.
Parce que je la trouve brillante. Déjà, je la trouve très pro, je la trouve brillante. Je trouve qu'elle a une énergie assez... vraiment, ça, on sentait en fait son énergie dans vos échanges, etc. Et elle a plein d'idées. Enfin, voilà, on sent tout ça, à quel point elle met du cœur dans tout ce qu'elle fait. Et elle m'a marqué, Céline. Ouais. J'ai trouvé très chouette. La maison est juste superbe et... tout a été réalisé avec beaucoup de goût et j'ai beaucoup aimé son énergie. Ouais.
Ok, trop chouette. Si vous pouviez inviter 3 célébrités vivantes, qui ce serait et pourquoi ?
On va pas avoir les mêmes. Non,
Ah ouais ?
Non, alors j'avais envie de dire un truc un peu marrant. À la rigueur, j'allais dire on invite les voisins.
C'est des célébrités.
Pour la petite histoire. On invite les voisins. Donc on va inviter Georges Clooney.
qui habite pas loin,
qui est voisin direct à Brignoles.
Je viens cette fois.
On invite Brad Pitt,
oui,
qui est notre voisin, pareil. On fait un petit coucou.
Il va
falloir du café, hein.
Et Georges Lucas. Non, mais non. Allez, je fais sérieux. Moi, j'aimerais inviter Justine Dupont parce que c'est une surfeuse une athlète quoi de grosses vagues géantes à Nazaré et tout et je la trouve hyper inspirante pour la génération notamment des petites filles qui arrivent et tout de se dire que tout est possible et qu'on peut y aller et que faut pas se mettre de limites donc je trouve que c'est et elle est hyper simple je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant on invite Georges Clooney quand même c'est notre voisin et puis je te laisse un troisième. Tu vas nous sortir une star du rock.
Un
musico.
Très logiquement, pour avoir la partie musique un peu cool et parce que j'adore la bonne bouffe, je prends Clooney nécessaire. Je prends Keith Richards.
Ah.
Ouais. C'est le guitariste imparfait mais qui fait des trucs géniaux, j'adore. Et ensuite, je prends, Gagnère ou Glenville pour. Pour qu'on bouffe bien.
Ah ouais.
Voilà, et puis alors là, on passe une soirée qui est cool, quoi.
Ah, je pense. Très, très bon casting. J'adore. On arrive à la fin de notre super échange avec mes deux dernières questions signature. La première, dans quel établissement vous aimeriez séjourner le temps d'un week-end?
Moi, j'aimerais beaucoup aller à Maison Sérone, dans le Perche. Déjà parce que je trouve que la maison, enfin, la réalisation est magnifique. Réalisée avec beaucoup de goût. Je les ai écoutés raconter leur histoire, etc., dans des podcasts aussi. Et j'ai beaucoup aimé les personnalités. Je les trouve aussi incroyables, enfin, hyper pro, avec une vision très pointue. Ils m'ont impressionnée, en fait, dans ce que j'ai pu écouter, voir et tout. Et voilà, ça donne très envie de découvrir Maison Sérone. Et après, moi, je voudrais faire un petit clin d'œil à l'Auberge de la Roche, qui est dans le Mercantour, à Val-de-Blore, parce qu'on a eu la chance d'y aller il y a un an. C'est un lieu incroyable. Les chambres sont superbes. On y mange divinement bien. Il y a tout un combo comme ça. On vit une expérience vraiment où on dîne hyper bien. Le confort est absolu. L'accueil hyper sympa. Des playlists géniales. Nous, c'est hyper important, la musique. On ne l'a pas dit, mais enfin, Maison Sumiane a 1000 playlists sur Spotify. Donc c'est un lieu qu'on avait beaucoup aimé, où j'aimerais bien retourner.
Ok. Tu veux compléter, Guillaume ?
Bah non, je ne vais pas compléter parce que j'avais
les mêmes. Ouais. Trop cool. Et donc, ma toute dernière question, c'est pour finir en musique, justement. Quel titre illustre le mieux l'état d'esprit, l'univers de Maison Sumiane ?
Alors moi, je vais t'en dire un. C'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, il y a des choses qui raccrochent assez bien. Je vais te dire « Time to Pretend » d'MGMT pour deux raisons. La première, c'est parce que nos amis l'ont joué pour l'opening et ils l'ont fait avec leur version, c'était vraiment très très cool. Et de deux, parce que Time to Pretend, c'est on a décidé de faire les choses comme on voulait, assez vite, de vivre le truc pleinement, quoi. Donc ça marche aussi. Après, si t'écoutes les paroles, tout fonctionne pas, mais mais ouais, celle-là.
Ben, c'est trop chouette, on écoutera quelques notes. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ?
Un grand merci, Laura, pour ton accueil. C'était vraiment très chouette de te rencontrer. Comme je te disais hier, j'ai l'impression de rencontrer une copine. un grand merci d'être venu jusqu'à nous. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à la Maison Sumiane.
Merci surtout à vous de m'avoir accueilli avec mon mari, mon petit bout. Et on a passé un super séjour et des très bons moments partagés avec vous, très agréables. Donc, c'est d'autant plus émouvant de pouvoir se poser avec vous et de récolter votre témoignage. Donc merci beaucoup à vous et bonne continuation. The comfort of my mother and